I'd like to make love with you, 'cause you are a woman and I am one too, and you are my sister, my lover, my friend. I'll be there when the day tries to end. I carefully would leave you laying, but I'm in the pool and wailing. I'd like to make love, love with you.
Canicule, le quart d'heure lesbien. Les femmes dans nos bras, pas dans leur cuisine.
Like to make love with you and begin the moment of something new. And that moment might happen to find your head on a pillow right down next to mine.
Les homosexuels, lesbiennes ou gays doivent-ils demander à Berne le droit de pouvoir se marier? C'était le thème du congrès organisé par la coordination homosexuelle suisse, La Chose, les 20 et 21 avril dernier. Dans la belle bâtisse du Landhaus de Soleure, 200 homosexuels suisses, en majorité alémaniques et masculins, il y avait à peu près 25% de femmes, se sont réunis pour débattre du problème. Quels seraient les avantages d'une union légale pour les homosexuels? Et quelle forme devraient prendre nos revendications dans ce domaine? Divers orateurs se sont succédés pour nous donner leur point de vue sur ce sujet, plus intéressant qu'il n'y paraît de prime abord. Par relever qu'il n'y avait pas d'oratrice lesbienne, Catherine Conrad, du LOS, l'Organisation des lesbiennes suisses, a participé au débat du dimanche, mais celui-ci n'était pas traduit. Voici néanmoins les moments forts de ce congrès dont nous vous retransmettons les traductions simultanées en français. L'accès au mariage légal des homosexuels pourrait entraîner une modification telle des mentalités que les rapports hommes-femmes au sein des mariages hétéros pourraient en devenir plus égalitaires. C'est la position qu'a soutenue Katharina Ley, sociologue bernoise, mariée, mère de deux enfants et spécialiste du mariage et de la famille.
Alors, le mariage a une très longue histoire. C'est l'histoire de la hiérarchie entre hommes et femmes et entre les parents et les enfants. Et ce que je critique aujourd'hui auprès du mariage, c'est que selon le droit, c'est au fond la légalité des sexes, l'égalité des partenaires, mais je pense que cette égalité est très superficielle. Et au fond, parce que nous vivons dans une société extrêmement patriarcale, c'est
malgré le nouveau droit matrimonial,
c'est quand même le mariage patriarcal.
Tu as dit quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Tu as dit que si il y avait un nouveau droit qui engloberait la relation des homosexuels, cela pourrait peut-être contribuer à faire changer dans la tête des gens la notion du mariage, justement.
Oui, ça c'est ma grande espérance, c'est ça. Moi, je suis vraiment intéressée de vivre pas le mariage traditionnel patriarcal, mais peut-être sur le droit, sur le niveau du droit, la même chose, mais avec une autre signification.
Quelle signification?
La signification de la horizontale, de l'égalité. Parce que mariage, c'est pour moi vraiment l'hiérarchie et pas l'égalité.
Thomas Geiser, juriste à Berne, a rappelé les règles juridiques actuellement en vigueur en Suisse pour les couples non mariés, c'est-à-dire par exemple pour les homosexuels. Ainsi, si votre copine a signé seule le bail de votre appartement commun et qu'elle décide de s'en aller et de le résilier, eh bien, elle doit respecter 6 mois de délai envers vous. Pourquoi ? Parce que, selon le code des obligations, 2 personnes qui habitent ensemble sont considérées comme une société simple, c'est-à-dire comme 2 personnes qui mettent leurs moyens en commun pour poursuivre un même but. Et dans ce cas-là, le délai de résiliation est de 6 mois. En ce qui concerne les impôts, si vous gagnez bien votre vie toutes les deux, aucun problème, vous n'avez pas intérêt à être marié. Mais si, pour diverses raisons, l'une entretient plus ou moins l'autre, même pendant un court laps de temps, vous êtes très très pénalisé. En ce qui concerne les impôts sur les successions, c'est pire. Ils sont prohibitifs, parfois supérieurs à 50% pour les couples non mariés, qui sont souvent obligés de vendre la maison ou le bateau qu'elles ont habité ensemble de si longues années. Et rien n'est prévu, évidemment, en ce qui concerne les transferts de fonds pour l'AVS, par exemple, et bien sûr, pas de rente de veuve. Les auditrices de Canicule sont en majorité encore jeunes, mais que penserez-vous quand vous aurez 60 ans et plus ? Le problème le plus concret est celui de la police des étrangers, et chacune connaît les problèmes de visa et de permis de séjour pour les lesbiennes qui ont une relation avec des étrangères. Néanmoins, il semble qu'il n'y ait pas forcément d'opposition de principe du département de justice et police. Et récemment, des homosexuels se sont vus refuser un permis de séjour pour le partenaire étranger, sous prétexte seulement que leur relation, qui datait de 3 ans, n'était pas de durée suffisante. Il n'y a donc pas de refus de principe. En ce qui concerne les enfants, là encore, le tribunal fédéral a clairement dit qu'une lesbienne peut avoir la garde de ses enfants, mais à condition que sa copine n'ait pas une trop grande influence sur elle, ce qui prête à toutes les interprétations. En tout cas, pas de garde pour l'ami et pas d'adoption possible pour les couples homo. Comme vous le savez, voici plus d'un an que les gays et les lesbiennes du Danemark bénéficient des possibilités d'un partenariat enregistré officiellement. La nouvelle loi danoise sur le partenariat donne aux homosexuels des droits proches de ceux des couples mariés, mais ils n'ont pas le droit d'adopter des enfants, même pas ceux de leurs partenaires. Un couple de gays danois mariés est venu parler de son expérience. L'un, Yvon Larsen, est pasteur. Son conjoint, Ove Carlsen, est psychologue scolaire. Yvon Larsen nous explique d'abord comment, paradoxalement, le problème du sida a contribué à l'adoption d'une loi sur le partenariat homosexuel au Danemark. Il s'exprime en allemand avec une traduction simultanée en français par Lise Heller.
Et au début des années 80, le sida a commencé à être un grand problème au Danemark pour les homosexuels et pour les hommes politiques. La collaboration entre les hommes politiques, les autorités et les homosexuels s'est bien développée. Ce qui nous a valu le respect des hommes politiques. Certains politiciens ont été d'avis que la loi sur un partenariat pourra justement amoindrir la promiscuité parce qu'ils croient, et ce qui leur importait parce qu'ils étaient d'avis que la promiscuité était la cause du sida. Nous voulions justement une nouvelle institution, le partenariat. L'institution du partenariat est très semblable au mariage, mais il y a quand même quelques exceptions. Nous ne pouvons pas adopter d'enfants comme tous les autres couples et nous n'avons pas droit à la bénédiction religieuse ou à l'enregistrement à l'église. De plus, un des deux partenaires doit être danois. Un autre tabou, ce sont les enfants et l'éducation des enfants par des homosexuels, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment l'impression que les homosexuels ne sont pas à même d'éduquer des enfants et d'élever des enfants convenablement. Il y a beaucoup de gens qui ont peur que des homosexuels pourraient justement séduire des enfants, et puis c'est une des causes pour laquelle on a peur de parents homosexuels, bien que les enquêtes démontrent que ce n'est pas du tout vrai.
Il semble par ailleurs que cette nouvelle loi danoise sur le partenariat soit beaucoup plus utilisée par les gays que par les lesbiennes. En voici quelques raisons.
Au Danemark, Il y a à peu près 900 couples qui ont été enregistrés. Trois quarts d'entre eux sont des homosexuels et le reste, un quart, sont des lesbiennes. Il y a plusieurs causes pour que les lesbiennes ne se fassent pas plus enregistrer. Tout d'abord, la loi ne permet pas d'adopter des enfants et beaucoup de lesbiennes ont des enfants d'un mariage antérieur ou par insémination artificielle. Les lesbiennes, tout comme les homosexuels, souhaitent pouvoir adopter les enfants du partenaire. Et nous savons qu'il est très difficile d'adopter d'autres enfants, et c'est la raison pour laquelle nous préférions adopter les nôtres. Deuxièmement, beaucoup de lesbiennes ont vécu dans un mariage hétérosexuel et ils ont droit à une pension alimentaire de leur ex-conjoint. Évidemment, du moment où elles font enregistrer leur partenariat, elles n'ont plus le droit à cette pension. Et dans un partenariat, on doit se soutenir économiquement. Et comme les femmes gagnent beaucoup moins que les hommes, c'est beaucoup plus difficile pour elles. Il y a donc des points où la loi sur le partenariat va à l'encontre des intérêts des femmes, mais pas parce qu'elles sont des lesbiennes, mais parce qu'elles sont des femmes.
Invité à ce week-end différent de la coordination homosexuelle suisse sur le partenariat, Klaas Seusberg, sociologue hollandais, a fait un exposé intitulé « Égalité des droits au conformisme émancipé » dans lequel il met en garde les homosexuels contre une trop grande attente de la résolution de leurs problèmes par un seul changement de la loi. Il fait le parallèle avec le problème de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes.
Aux Pays-Bas, nous avons déjà une certaine expérience des lois qui sont censées lutter contre la discrimination des femmes. Alors, quelles sont les expériences des femmes dans ce domaine? Est-ce que ces lois ont donné des résultats? Non, dit une juriste en vue de notre pays, Heikelin Ferrein-Stuart. Elle dit que les lois qui doivent garantir l'égalité des droits ne sont que des mensonges la plupart du temps. En fait, l'établissement de normes est devenu un objectif en soi. On codifie simplement des normes par une loi. Toutefois, la mise en œuvre ou les sanctions sont le plus souvent très faibles. Le plus souvent, ces lois ne font que réglementer les exceptions. Ces lois ont plutôt produit des inégalités que des égalités. Elle dit, et je la cite, l'égalité des droits formels est le plus souvent une illusion d'optique, une mesure cosmétique. L'égalité des droits ou l'antidiscrimination comme justification de l'accès au mariage pour les gays et les lesbiennes, eh bien, à mon avis, c'est une justification très faible. Je suis convaincu que les inégalités sociales, en fait, seraient voilées, seraient cachées par l'introduction du mariage pour les gays et les lesbiennes. Je pense qu'en fait, ultérieurement, on les traitera de peu important au plan social. Et je pense que ce serait un effet pervers de l'émancipation, un effet non souhaité de l'émancipation. J'entends déjà mes voisins qui vont dire « Vous pourriez bien vous marier, enfin maintenant, vous pouvez bien vous marier maintenant, alors vous n'avez plus rien à demander, vous n'avez plus à vous plaindre. »
ce week-end différent sur le partenariat homosexuel, trois stratégies possibles ont été exposées par les différents groupes pour la Suisse. La stratégie numéro 1 exigerait la liberté de mariage pour les homosexuels. La stratégie numéro 2, un partenariat enregistré. La stratégie numéro 3, des améliorations dans certains domaines juridiques. La stratégie numéro 1 est soutenue par la coordination homosexuelle suisse, la CHOSE, admirer ce parti pris de féminisation de cette institution déjà vieille de quelques dizaines d'années qu'est la coordination homosexuelle suisse. La CHOSE donc, en la personne de Rolf Trexel, journaliste et membre du groupe de travail politique fédéral, veut exiger que la forme juridique du mariage actuel puisse être utilisée telle quelle par les homosexuels qui le désirent.
Comment nous, groupe de travail politique fédéral de la CHOSE, avons-nous eu cette idée absolument folle de demander cette institution incroyable aussi pour les lesbiennes et les gays? Tout d'abord, j'aimerais faire quelques remarques avant d'essayer de répondre à cette question. Tout d'abord, lorsque je parle de liberté de mariage, je veux dire par là que les homosexuels pourraient enregistrer leur partenariat auprès de l'État et profiter des mêmes droits que des couples mariés. Nous parlons donc de la forme juridique mariage et non pas du mariage sur la base d'idéologie sociale ou du mariage religieux. Évidemment, au lieu de liberté de mariage, nous pourrions appeler ça partenariat avec les mêmes droits que le mariage. Évidemment, ce serait moins lourd du point de vue historique et du point de vue émotif, mais ce serait un titre un petit peu lourd, un peu complexe. Deuxièmement, la revendication de liberté de mariage n'exclut pas la réduction des privilèges injustifiés du mariage. Pour nous, la tâche de l'État doit être de favoriser certaines formes de vie. Mais plutôt non, il me semble que l'État n'a pas pour tâche de favoriser certaines formes de vie. Il y a par exemple certaines dispositions du droit des impôts et des assurances sociales qui ne sont pas justifiées en ce qui concerne les couples mariés. Nous, je pense que nous devrions demander des règles qui seraient indépendantes de l'état civil pour les homosexuels et les lesbiennes. Toutefois, il y a certaines règles pour les couples mariés qui sont justifiées. Par exemple, le droit de séjour pour les partenaires étrangers et le droit à l'héritage. Je crois juste que un partenariat ait un rôle sur le droit des étrangers et sur le droit des successions. Le partenaire devrait être favorisé lors d'héritage, même s'il n'y a pas de testament. Ceci me semble justifié si les gens vivent ensemble. Et en outre, en ce qui concerne l'impôt sur les successions, il me semble justifié que lorsqu'il y a ménage commun, cet impôt ne soit pas plus élevé, ne soit pas aussi élevé que lorsqu'il y a succession à l'extérieur de ce ménage. Si les impôts sont aussi élevés dans un ménage, la conséquence c'est que, par exemple, dans une ferme ou dans une entreprise, eh bien, il faudrait renoncer à cette ferme, renoncer à cette entreprise si les impôts sont très élevés. Donc il y a ici, enfin je crois qu'il est justifié de favoriser le couple dans ce contexte. En ce qui concerne les permis de séjour, eh bien je n'en parle pas par hasard parce que c'est le problème juridique le plus urgent que nous connaissons aujourd'hui en Suisse, nous lesbiennes et gays. Les hétérosexuels peuvent se marier, tandis que les homosexuels et les lesbiennes ne peuvent pas. Ce problème touche des dizaines, voire des centaines de couples homosexuels en Suisse, et ceci souvent depuis des années.
Erwin Ott, conseiller général de Bâle, soutient le point de vue de remplacer le mariage par un partenariat enregistré, valable aussi bien pour les hétéros que pour les homos. En tant que membre du Grand Conseil de Bâle, il nous explique comment ses collègues politiciens ont reçu ses propositions. Lise Heller nous traduit ses propos.
Donc, lors de ma première revendication en 87, et j'ai voulu une reconnaissance cantonale des communautés de vie. Et je l'ai voulu pour une communauté de vie homo et hétérosexuelle. Et c'était évidemment le seuil de tolérance pour l'UDC. L'UDC a dit que pour les couples homosexuels, on pourrait comprendre, on comprendrait leurs problèmes. Mais qu'on puisse inclure les couples hétérosexuels, alors là, vraiment pas. Ça s'appelle l'institution du mariage et de la famille. Ma motion a été refusée par 46 voix à 32 voix. Et bon, donc j'ai trouvé quand même que j'ai reçu pas mal de voix, mais j'ai été surpris parce qu'il y avait eu tant de résistance et tant d'arguments stupides. En 89, j'ai fait une deuxième motion. Et évidemment, j'ai changé ma motion un peu. Et j'ai renoncé à inclure la communauté à vie hétérosexuelle. Les objections ont été les mêmes. Moi, en tant que chrétienne, je ne peux pas signer ce genre de papier. Voici le porte-parole de l'UDC, qui était une femme, a dit que le mariage est la norme sociale. Ce mariage est contracté pour éduquer, pour procréer, éduquer des enfants. C'est ce que nous voulons. Et on n'a pas besoin d'élargir ça. Un point, c'est tout. C'est-à-dire que c'est ce que je voulais savoir. En 87, il s'agissait que de prétextes. Cette fois-ci, le refus a été vraiment un refus de justesse parce que on a refusé ma motion de 46 voix à 43 voix. Il y a plus de voix pour ma motion, c'est que certaines personnes au sein du Parti Socialiste et de l'Alliance des Indépendants, ainsi que il y a eu certaines personnes qui ont compris les arguments. Malheureusement, on n'a pas eu de majorité, même pas à Balville. Mais je doute qu'il puisse y avoir de grands bouleversements sans pouvoir justement changer, attaquer les principes. Je crois qu'on pourra changer que des détails. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est les choses fondamentales. Je n'ai plus qu'une chose à faire. Il me faut lancer une initiative pour abolir le mariage en tant qu'institution de l'État.
Alors, mariage pour les homosexuels ou partenariat pour tout le monde? Thomas Geiser et beaucoup d'autres avec lui proposent plutôt des améliorations dans certains domaines juridiques, améliorations qui seraient valables pour chaque individu et pour ses rapports avec les autres.
Les problèmes qui se posent, finalement, ne se posent pas entre les partenaires, mais dans un domaine plus large, à savoir celui que l'on appelle le domaine public, c'est-à-dire le domaine de l'État. Deux exemples. Je prends ces exemples parce qu'ils ont déjà été présentés dans la première stratégie. Premier exemple, le droit successoral. Dans la mesure où il n'y a pas de testament, dans la mesure où quelqu'un doit hériter même s'il n'y a pas de testament, alors soit vous faites un testament et vous favorisez votre ami ou votre ami eux, ou vous faites enregistrer votre partenariat, mais en tout cas, il faut un acte dans les deux cas. Soit, dans le premier cas, l'acte touche à l'héritage proprement dit, soit dans le deuxième cas, c'est un paquet global, si vous voulez. Alors là, il n'y a pas de problème, à mon avis. Toutefois, il y a problème en ce qui concerne l'impôt sur la succession. On nous a dit que l'une des possibilités, c'est de ne rien avoir à léguer. À ce moment-là, c'est réglé. Mais évidemment, on est en Suisse. Et les Suisses, ils ont toujours un petit quelque chose à léguer. Selon le droit actuel, le partenariat, c'est aussi une famille. Mais ce qui compte, c'est le mariage et les liens de famille. À mon avis, et je serai très bref, même problème pour ce qui est des étrangers. Pourquoi la condition devrait-elle être qu'ils vivent ensemble sous le même toit et qu'ils aillent ensemble au lit pour qu'un permis de séjour soit justifié? Moi, je peux bien m'imaginer que même à l'extérieur du même toit et à l'extérieur du lit, une liaison peut exister entre deux personnes et qu'elle puisse être aussi tellement essentiel que ces deux personnes aient besoin d'être proches, c'est-à-dire de pouvoir être dans la même ville. Et ce serait donc une raison pour que celui qui n'a pas la nationalité nécessaire reçoive un permis de séjour ou un permis d'établissement. C'est pourquoi il est important que l'on agisse là où les problèmes ponctuels se posent. Et là, il faut essayer de dépasser les règles parfois obsolètes du droit. Je crois que c'est comme cela qu'il faut agir et trouver des normes qui seront justes, qui serviront le partenariat homosexuel, mais aussi au-delà, peut-être, qui permettront de régler un autre ensemble de problèmes. Et là, c'est là que l'on peut trouver une coalition plus large. Bon, je n'exclus pas une revendication beaucoup plus spectaculaire. Moi, je pense qu'on pourrait demander quelque chose comme cela a été fait au Danemark. Cette loi me semble très bonne. Bon, ça, je crois que cela devrait être la revendication principale. C'est essentiel. Je dirais que dans de nombreux milieux, bon, il est difficile de citer lesquels, mais je dirais que dans certains milieux, il y a des gens qui ont une approche très bourgeoise et qui comprennent cette approche. Et donc, je pense que cette possibilité de... Il y a des gens qui comprennent que cette possibilité devrait aussi être offerte aux homosexuels. On pourrait dire à certains cercles politiques, eh bien, si la revendication principale ne passe pas, eh bien, les autres revendications ne tomberont pas pour autant. La revendication principale serait l'accès au droit du mariage pour les partenaires homosexuels. Et ça, éventuellement, sous un autre titre. Ça, c'est une question d'étiquette. Moi, ça m'est égal. Moi, je préfère le vin dans les vieilles bouteilles plutôt que dans les nouveaux tétrapaques.
Ce que j'ai trouvé assez décapant à écouter sous ces homoparlers, c'est que quand on dit mariage dans un milieu féminin, chez les lesbiennes comme chez les autres, on pense immédiatement amour, couple, relation affective. Quand les hommes, même homo, parlent mariage, on entre immédiatement sur le terrain économique. Propriété, réappropriation de biens, d'enfants à qui transmettre ces biens. Et si les hommes gays de la coordination homosexuelle suisse décident de revendiquer le mariage pour les homosexuels, ce ne sera pas parce que amour toujours pour le meilleur ou pour le pire, mais parce que c'est un bon coup politique.
Notre couvent a connu un gros chagrin à cause de la querelle des modernes et des anciens. On a réconcilié jeunes et vieux chachaplins sur ce rythme latin. Ils se tendent la main, chacun à son chachaplin, parce que le chacha plaît.
le curé nous chacharie. Il n'aime pas que le chachari. Et pourquoi donc le chachari? Sœur Agnès, une chachamelle, dit de quoi le chachamelle. Frère Jean, un chachapon, n'aime pas ce que le chachapon. Mais qu'est-ce que le chachapon? Pour finir ses chachamailles, faut bien que le chachamaille. Le curé en chachapie, il n'aime pas que le chachavire. Mais pourquoi donc le chachavire? Quand vient l'été, le timbre dans son chachalet, claque des doigts et ne trouve pas le chachalet. Ne trouve pas ça contraire à la chachasseté, car ce rythme latin plaît à tout un chien.